Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Recrudescence, la violence au nord et au centre du Mali. Les attaques se sont multipliées cette semaine encore contre les forces armées et la population dans ces zones. La révision de la constitution, des discussions sont en cours à l'Assemblée nationale. Et dans le forum de la presse de ce soir, mesdames et messieurs, nous parlerons également d'enrichissement illicite et de changement climatique. Nos invités sont tous journalistes. Il s'agit de Hakim Maïga de la Nouvelle République, Badou Escoba du Carrefour et David Dambélé des Dépêches du Mali, qui sera au téléphone. Je suis Mouhamadou Touré, Gagné Kanté est à la technique.
Le Grand Dialogue.
Comme je le disais au début, nous allons parler dans ce premier volet d'insécurité au nord, tout comme au centre. Cette semaine, il y a eu des attaques. Il y a eu celle de Nampala qui a fait 2 morts et 5 portés disparus, également 7 terroristes abattus. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste Nusrat el-Islam. Également, des obus ont visé le camp de Barkhane à Tombouctou. 3 soldats français et 4 casques bleus burkinabés ont été blessés. L'affrontement hier entre Gatcha et MSA contre un groupe terroriste. Une dizaine de morts, plutôt affrontement hier entre Gatcha et SMSA contre un groupe terroriste. Une dizaine de morts des deux côtés. Nous allons écouter d'abord l'analyse de Serge Daniel sur cette situation. Avant d'avoir l'analyse de Serge Daniel, la première question, nous allons la poser à M. Hakim Maïga de la Nouvelle République. Bonsoir, M. Maïga.
Bonsoir.
Alors, face à cette situation, l'insécurité qui ne cesse de grandir dans le pays, que peut-on dire sur cette position?
Vraiment, ce que je peux dire, c'est que c'est l'émoi. C'est l'émoi partout au Mali, parce qu'on ne sait même plus ce qu'il faut faire. D'abord, notre armée est toujours surprise. Dans ces positions, nos partenaires, la MINUSMA et Barkhane, ne semblent pas sérieux dans leur collaboration. Et malheureusement, c'est des morts, c'est des victimes, c'est des blessés. Chaque matin, avec son corollaire de blessés, de morts, de surprises, d'embuscades, nous ne comprenons rien.
Okay. Alors, nous allons écouter l'analyse de Serge Daniel.
Alors moi je suis tenté de dire que c'est finalement le résultat de l'échec de la politique mise en œuvre pour lutter contre le terrorisme. On sait maintenant, avec de plus en plus avec précision, que si on connaît les attaques des 6 mois derniers, qu'il y a une coordination assez claire dans les attaques au nord-ouest, au nord-est et au nord. Ils sont tentés de s'installer frontière Mali-Niger, Mali-Burkina, Mali-Mauritanie vers le Ouagadou, où d'après les sources sécuritaires, ils sont de plus en plus nombreux dans cette zone-là. Donc il y a une stratégie des frontières que les djihadistes sont en train de développer actuellement. La MINUSMA a toute sa place au Mali, c'est inévitable, à mon avis, de méthode en sous. Et Barkhane qui a pris la suite de Serval. Le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas de stratégie de défense dans le nord du Mali après l'opération Serval.
Alors, cette situation, selon Serge Daniel et d'autres observateurs, est le résultat d'un échec dans la stratégie de lutte contre le terrorisme. Monsieur David Dambélé, vous êtes des Dépêches du Mali, vous nous écoutez?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors, êtes-vous d'accord avec Serge Daniel quand il dit que cette situation est un échec, est le résultat d'un échec dans la stratégie de lutte contre le terrorisme?
Mais absolument, on se rend à l'évidence que... tout ce qui a été arrêté par rapport à ce combat terroriste va à volo au jour le jour et les attaques auxquelles nous assistons sont manifestement la preuve que il faut revoir certainement la copie de la lutte antiterroriste. Nous avons l'avantage d'avoir certainement, en plus de nos forces, des forces étrangères. Mais pourquoi le combat n'arrive pas à se tramer à hauteur du souhait? C'est la grande question. Je pense qu'il faut remettre cet aspect de la chose en question et revoir cette copie de la lutte contre le terrorisme au Mali.
Merci, M. Dembélé. Avant que M. Badou Escoba nous rejoigne, nous allons retourner avec M. Hakim Maïga. Vous l'avez dit tout de suite que l'armée malienne ne cesse de se faire surprendre. Pourquoi, malgré tout cela, elle n'arrive pas à prendre des mesures pour faire sécuriser ce pays?
Bon, c'est la question que nous nous posons. Chaque fois, on nous parle de réforme de l'armée, de tous ces programmes pour améliorer nos hommes. Mais malheureusement, on est tout le temps surpris. On est tout le temps surpris. Dans nos positions, c'est ce qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut revoir tout ce dispositif et faire des vraies formations militaires, parce qu'on ne comprend pas.
Est-ce que à ce stade, on a le temps de former encore ces militaires?
Oui, je pense que ça va être difficile parce que on est en période de guerre, mais comme on s'interroge, on ne comprend pas ce qui se passe. Après toutes ces formations, on est tout le temps surpris.
Alors, est-ce que la MINUSMA ne pourrait pas jouer un rôle dans ce cadre, même si elle ne peut pas attaquer, elle ne peut que réagir, mais en étant cantonnée?
Oui, la MINUSMA, nous on a fondé beaucoup d'espoir dans la MINUSMA et à Barkhane à l'époque, mais malheureusement on a l'impression qu'ils ne sont pas sincères dans la collaboration qu'ils doivent nous apporter. Donc vraiment il est temps,
Sincère, c'est-à-dire?
Sincère, c'est qu'on a l'impression que le rôle qui les est assigné, c'est pas ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. C'est-à-dire, ils attendent toujours, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas attaquer, mais il faut défendre.
Quand vous dites que le rôle qu'il est attribué, ils ne sont pas en train de le jouer sur le terrain.
Non, c'est l'impression qu'on a. Quand, par exemple, la MINUSMA je prends par exemple les grandes villes du Nord, et immédiatement quand on vient signaler à la MINUSMA qu'à 5 km de là, il y a déjà des bandits qui ont attaqué, qui sont en train de piller ou qui tuent, ils ne font rien. C'est après coup qu'ils sont là, sur le terrain.
Okay.
C'est-à-dire jamais dans le feu de l'action.
Okay. Alors, M. David Dembélé, est-ce que la MINUSMA peut, dans ces genres de situations, aller réagir quand on dit que la MINUSMA ne peut pas aller attaquer si on lui signale ces genres de situations? Est-ce que son mandat lui permet d'aller réagir?
Bon, a priori, non. Son mandat, moi je pense que c'est ça, c'est justement ce mandat qu'il faut revoir. Et lui donner toutes les prérogatives de d'aller à l'offensive, bon, entre guillemets, parce que vous savez, sa présence au Mali sous ce mandat est quasiment inopérant. Et vous voyez, malgré sa présence, nous assistons à des attaques multiformes dans toutes les facettes, comme si elle n'était pas là. Donc il y a lieu impérativement de revoir ce mandat et de lui permettre d'agir au-delà des prérogatives qu'on lui confie.
C'est vrai que Barkhane également n'est pas également déployée uniquement pas pour le Mali, mais est-ce qu'elle ne devrait pas aussi se concentrer dans le nord et le centre du pays à travers ces différentes patrouilles qu'elle mène?
Bon, vous voyez que la France a allégé son contingent sur le sol malien. Donc, il va de soi que peut-être les zones qui sont contrôlées par où Barkhane, la force Barkhane est présente, il va de soi peut-être que d'autres contingents arrivent pour renforcer ce dispositif et occuper d'autres parties du territoire. Mais là n'est pas la question. Je pense que c'est une question d'organisation des forces présentes au Mali et on a toute cette possibilité de revoir ça et que les choses puissent changer à hauteur du souhait.
Alors, Monsieur Hakim Maïga, tout comme la semaine dernière, des écoles et des mairies ont été incendiées cette semaine encore à Yuwaru dans la région de Mopti, ce qui fait que les auteurs de ces actes ne s'intéressent pas seulement aux populations, mais également à des structures, des écoles qui doivent permettre aux enfants d'étudier. Que pensez-vous de cette situation?
Bon, c'est grave quand on s'attaque à des institutions comme des écoles. c'est très grave. Et je pense que dans cette région, à un moment, il y a eu une levée de boucliers des ressortissants de cette zone qui disaient de ne pas faire l'amalgame. Mais il faudrait quand même, puisqu'on n'arrive pas à identifier l'assaillant, il faut quand même permettre à l'armée de faire tout son travail.
Certains observateurs pensent que l'objectif est également d'empêcher les élèves d'aller étudier pour comprendre ces choses et pouvoir éviter de rentrer dans cette radicalisation. Donc leur objectif, c'est de les empêcher d'aller à l'école pour pouvoir les accueillir.
Bien sûr, parce que chaque fois qu'ils ont saccagé des écoles, le message qui est véhiculé, c'est qu'ils sont contre l'enseignement occidental. Ils préfèrent que leurs enfants, ils les considèrent comme leurs enfants, étudient le Coran et ses pratiques. Donc, comme vous le dites, l'objectif final, c'est de pouvoir les récupérer, les endoctriner, les récupérer.
Monsieur David Dambélé, est-ce qu'il peut y avoir d'autres idées par rapport à cette situation, les écoles et les mairies qui sont incendiées?
Oui, c'est vrai. Mon excellent confrère Hakim l'a dit. C'est un combat idéologique et il y a cette volonté affichée de mettre en coupe réglée tout ce qui peut provenir de l'Occident. Et voilà, c'est une guerre indirecte, voilà, une guerre des civilisations. Et vu que le Mali est par excellence une terre où voilà, cette civilisation voilà, est vécue sous certaines formes, notamment au niveau de la sphère éducative. Et donc c'est vraiment un combat très affiché pour contrecarrer cette dynamique.
Les deux semaines précédentes, il y a certains observateurs qui pensaient que ces actes étaient faits pour montrer à la France, parce qu'il y avait la visite d'Emmanuel Macron, qu'ils existent, ces groupes terroristes. Est-ce que cette fois-ci, c'est toujours le cas ou c'est juste des actes terroristes qui vont se multiplier et qui resteront en cours si des mesures ne sont pas prises?
Bien évidemment, la prise de mesures s'avère plus que urgente. Oui, bien avant l'arrivée de Macron. C'est vrai que avec l'arrivée de Macron, on brandit ça. Mais bien avant son arrivée, il y a eu combien d'attaques, il y a eu combien d'attentats. Et ça continue. Et ça va continuer tant que il n'y a pas cette volonté de revoir. Non seulement le mandat des forces présentes, et aussi notamment la MINUSMA et cette réorganisation de ce redéploiement des forces armées maliennes sur certaines zones d'influence, certaines zones où la pratique terroriste tend à se cristalliser.
Ok. Alors, Monsieur Hakim Maïga, est-ce que nous allons revenir à l'accord de paix qui a été signé depuis 2 ans, dont la mise en œuvre est en cours? Est-ce qu'il faudrait réellement négocier avec ces groupes terroristes, vu que ce sont eux qui sont en train de mener cette insécurité dans le pays?
Bon, c'est un débat qui se mène, mais moi, à mon humble avis, je ne pense pas qu'il faille discuter avec ces gens-là, parce que nous disons, il faut, dans les débats, il se dit qu'il faut négocier avec Iyad et Koufa, mais on ne sait pas les contours, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il peut profiter.
Mais vu qu'aucune des mesures prises n'est en train de les stopper, que faut-il faire donc?
Non, moi, je pense que je continue de la malasser. Tu vois que maintenant, le vocabulaire qu'on utilise chaque fois qu'il y a attaque ou autre chose, c'est que c'est une attaque, c'est des terroristes. C'est des terroristes, c'est ce qu'on utilise maintenant, mais c'est parce que la CEMA, qui pour moi est l'auteur de plusieurs attaques, ne peut pas revendiquer. Donc,
Pensez que c'est la CEMA qui est cachée derrière ces attaques?
Non, pas toutes les attaques, mais certaines attaques. Le champ est donné au mouvement Nusrat Islam pour revendiquer chaque fois qu'il y a un mouvement. Donc, moi, je pense que la CEMA n'est pas encore sincère dans tous ceux qu'ils ont signé comme accord.
Alors, monsieur Dembélé, partagez-vous l'avis de monsieur Maïga?
Absolument,
Qu'il ne faut pas négocier avec les terroristes.
Pardon?
Vous pensez également qu'il ne faut pas négocier avec les terroristes?
Bon, vous voyez que à un certain niveau, il faut bien se poser certaines questions. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut continuer avec la méthode désuète, hein, que nous continuons d'utiliser, ou est-ce qu'il faut changer de fusil d'épaule? Je pense qu'il faut changer de fusil d'épaule.
Des?
Oui.
Vous dites la méthode des?
Oui, je dis il faut changer de fusil d'épaule. Je dis on ne peut pas continuer dans une méthode qui a affiché toutes ses limites. Et donc, il y a lieu absolument de changer de fusil d'épaule. Moi, je suis un peu plus diplomate, peut-être, comparé à mon collègue Hakim.
Donc, vous dites qu'il faut négocier avec les terroristes?
Non, justement, j'ai dit que cette dynamique a longtemps perduré et qu'elle a montré ses limites.
Est-ce que maintenant, que faut-il faire?
Voilà, donc j'ai dit, il y a lieu de changer de fusil d'épaule. Peut-être que la force peut être une panacée pour appuyer mon collègue Hakimi.
Alors, nous allons observer la première pause et revenir tout de suite.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous parlons ce soir dans le forum de la presse de sécurité, d'enrichissement illicite, de la révision de la Constitution et de changement climatique. Nos invités, Hakim Maïga de la Nouvelle République et David Dembélé des Dépêches du Mali. Monsieur Maïga, vous voulez la parole toujours par rapport à la sécurité?
Oui, par rapport au fait de négocier ou pas avec Iyad et autres. Oui, si c'était Iyad seulement et Koufa avec les quelques Maliens qu'on sait avec eux, mais on ne maîtrise pas. C'est tous les terroristes du monde qui sont avec ces gens-là. Donc si on ouvre la brèche pour que ceci entre, c'est fini pour le Mali. Donc pour le moment, il faut étudier, il faut maîtriser les contours pour évoquer quoi que ce soit. Sinon, tel quel, il ne faut jamais signer avec ces gens. Il ne faut pas dialoguer avec ces gens-là.
Alors, nous allons aborder le second sujet de ce débat. Il s'agit de la révision de la Constitution. Les débats sont en cours à l'Assemblée nationale. Mais il semblerait que dans la Constitution, il est dit que quand la souveraineté de l'État est menacée, la révision de la Constitution est non envisageable. Pourtant, les débats sont en cours pour, bien sûr, réviser cette Constitution. Qu'en pensez-vous, monsieur Maïga?
Moi, je suis d'accord que c'est pas le moment, c'est pas opportun. Nous sommes en guerre, nous sommes menacés de partition, nous sommes menacés dans nos fondements. Je ne vois pas pourquoi on puisse s'entêter à réviser maintenant. Donnons-nous le temps de bouter tous ces apatrides hors de notre pays avant de réfléchir sur tout ça. Surtout que ce que le texte qu'on nous propose même, il n'y a pas consensus autour.
Est-ce qu'il y a même quelque chose là-dedans parmi les parties qu'on va réviser? Est-ce qu'il y a une partie qui concerne la stabilité, la paix au Mali?
Je ne pense pas.
Monsieur Dembélé, est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a une partie, parce que on parle de la création d'un Sénat, on parle de la Cour des comptes, on parle de la prestation de serment du président qui ne sera plus fait au niveau de la Cour suprême, mais au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cette révision qui va concerner la paix, la stabilité au Mali?
Absolument rien. On va vous dire que c'est des réformes institutionnelles, vous voyez, qui ne mentionnent en rien l'enjeu dans lequel nous sommes, l'enjeu sécuritaire. Et encore une fois, c'est vraiment, je me demande souvent où est-ce qu'on va. On dirait qu'il n'y a pas une prise de conscience de la situation dans laquelle nous sommes. et qui doit s'avérer prioritaire. La question sécuritaire, elle est non négociable, elle doit être prioritaire. Et vous voyez que, voilà, quand à partir du centre ou dans les autres régions, on se rend à l'évidence que les priorités ne sont pas prises en main par l'autorité de Bamako. C'est une réalité. Et pendant que le pays brûle par endroits, on s'amuse ici à colmater des choses, à changer des pierres dans le dispositif des textes. Je pense que plus que jamais, c'est une priorité absolue de faire face à l'enjeu sécuritaire que de verser dans des réformes inopérantes et pas urgentes pour le moment.
Badou Escoba du Carrefour vient de nous rejoindre, alors nous parlons de la révision de la Constitution. Est-ce que en ce moment il n'y a pas une violation de cette Constitution, même quand on parle de révision, alors qu'une partie du territoire malien est occupée par où il n'y a pas de paix?
Il s'agit bien de la Constitution du 25 février 1992, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Il s'agit de réformer cette Constitution. Je pense que si vous prenez la fourchette février 92, mais 2017, il y a un long temps quand même. Donc, nécessairement, il faut une révision de la Constitution.
Mais est-ce que c'est le moment?
Bon, le moment, je pense que le moment quand même n'est pas opportun. Mais fondamentalement, la révision de la Constitution, de cette Constitution, c'est pour l'adapter à l'accord d'Alger. C'est mon point de vue.
Mais justement, on parlait de ça. Est-ce que vous avez vu une partie qui va être révisée qui concerne cet accord de paix, qui concerne même la paix tout court au Mali?
Bon, moi, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne maîtrise pas ce domaine tellement. Oui. Mais ce qui est sûr et certain, et le contexte actuel du pays est tel qu'il y a d'autres secteurs prioritaires. Donc, je rejoins mon confrère qui
notamment disait... Notamment la création d'un Sénat, par exemple, qu'est-ce que ça va servir concernant l'accord de paix? La prestation de serment du président de la République qui ne se fera plus à la Cour suprême, plutôt à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que ça va servir?
Bon, par exemple, la création du Sénat, moi, je ne vois pas la nécessité, ça n'engage que moi, la nécessité de la création d'un Sénat. Moi, je ne vois pas la nécessité parce que c'est quand même, ça aura une incidence sur le budget. Or, le contexte actuel est tel que nous devons d'abord nous atteler à sécuriser le pays. C'est-à-dire, il faut tout faire pour que le Mali puisse recouvrer sa souveraineté pleine et entière, son intégrité territoriale. En ce moment, on peut parler de révision constitutionnelle. Mais dans ce contexte actuel, et essayer de réformer la Constitution, je pense que c'est un peu mal vu. Le moment n'est pas bienvenu.
Alors, M. Maïga a vu que pratiquement tout tourne autour du président. Est-ce que ce n'est pas un autre mandat, le mandat prochain qui est en train d'être préparé à travers cette révision de la Constitution?
Bon, en tout cas, je ne comprends pas. Bon, le mandat peut se préparer sans qu'on révise quoi que ce soit. Et je ne comprends pas l'empressement qui est en train de se faire pour réviser coûte que coûte cette Constitution. Ou, comme tu l'as dit, s'il y avait des aspects importants là-dedans qui peuvent nous amener à nous stabiliser, à amener la paix, à nous amener à recouvrer tout notre pays, il n'y a aucun problème. Mais rien de cela, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui est caché en dessous, mais vraiment, je pense que les Maliens doivent s'opposer. Les Maliens doivent s'opposer à ça parce qu'il y a tellement de priorités. Il y a tellement de priorités que de se focaliser sur ça, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas, je ne comprends pas.
Alors, parlant de nouveau mandat, parlant d'élection, nous allons écouter l'avis de la population par rapport à l'aide de l'État aux partis politiques. Nous savons que le RPM seulement a reçu à peu près 703 millions de francs CFA.
Se trouve que dans ce pays-là, le financement des partis politiques relève juste l'affaire de quelques individus. Ils encaissent juste l'argent, mais sur le terrain, on ne voit aucun effet. Je ne suis pas contre le financement des partis politiques, mais je veux que l'objectif soit vraiment réalisé.
Je trouve ça bien à partir du moment où on est en démocratie, mais j'aurais aimé qu'on crée une banque de démocratie pour financer ces partis.
Je pense que l'État a d'autres priorités plus que ça, parce que vu la situation actuelle, il y a d'autres préoccupations telles que l'éducation, et puis les denrées alimentaires sont plus chères. L'État doit avoir ses côtés au lieu de faire ses financements bidons.
Il devait injecter ces 2 milliards à la formation des jeunes diplômés sans emploi. Je crois que le financement des partis politiques n'a pas eu lieu d'être et ce n'est pas le moment que ça se passe.
Vraiment, pour le financement des partis politiques, on est contre. Les moyens cherchent à manger et ils sont là pour distribuer de l'argent entre les partis politiques. C'est pas du tout, c'est très chaud dans ces pays-là.
Alors, Monsieur Dembélé, est-ce qu'il y a des critères pour partager cette aide entre les différents partis politiques? Quand on voit la somme que RPM, le parti présidentiel, a reçue par rapport aux autres partis, il y a une question qui se pose.
Oui, bon, il y a des critères, bien entendu. Les critères fondamentaux, c'est bien sûr la taille de la formation politique en termes de représentativité, en termes d'élus. Et c'est fondamental. Mais bon, l'impact, peut-être la question qu'on peut se poser, c'est l'impact de ce financement public-là. Et vos orateurs, les gens que vous avez, les citoyens interrogés l'ont soulevé. Et ces fonds ne sont pas utilisés à bon escient pour la plupart des cas. Vous voyez que la formation des citoyens vient en amont. Et la formation voilà, de la base des militants, et c'est impératif. Je pense que ces partis devraient cerner, se saisir de l'opportunité et de mesurer l'enjeu, toute l'importance de la formation des militants à la base, de la formation du citoyen, la culture de la citoyenneté, c'est très important. Les partis passent généralement à côté de la plaque par rapport à cet aspect et c'est très regrettable.
Monsieur Badou Escoba, que pensez-vous de cette aide de l'État aux partis politiques?
Je pense que ça fait partie des chartes des partis politiques, cette aide de l'État à l'endroit.
Mais la répartition?
Bon, c'est la répartition qui pose problème. Vous imaginez le RPM qui se taille à lui 700 millions, je pense que c'est un peu trop. On doit vraiment tenir compte des critères bien définis pour pouvoir distribuer les sous. Bon, peut-être qu'on a pris chaque parti en fonction de son poids politique. C'est ça, peut-être.
Le poids du RPM vaut ça?
Mais le poids du RPM vaut ça actuellement parce que le parti au pouvoir, impérativement, vous savez, au Mali, quand un parti vient au pouvoir, il y a beaucoup de gens qui viennent. Il y a les arrivistes, les opportunistes, donc tout le monde vient. Donc ça gonfle le parti impérativement. Ça gonfle le parti. Mais moi, je trouve que l'aide aux partis politiques, c'est une nécessité parce qu'il faut former les militants à la base. Il faut les faire certains enseignements, tels que le civisme, tels que la citoyenneté. Parce qu'il y a un problème de citoyenneté qui se pose actuellement. Donc, les militants des partis politiques, si on les forme, si on les enseigne, les béaba du processus démocratique, ça peut faire avancer le pays, ça peut diminuer le taux de civisme.
Alors, Monsieur Maïga, est-ce que le RPM mérite 703 millions de francs CFA?
Bon, il ne faut pas poser la question comme ça. Tu sais, il y a 64 partis qui ont postulé, dont 58 qui ont été retenus. Donc, sur cette base, par rapport aux critères que tu as posés à David, d'abord, il faut être détenteur d'un siège, il faut tenir ses instances, les congrès, les conférences nationales, les réunions de partis, etc. Il faut aussi avoir une représentation nationale. Aujourd'hui, le RPM est quand même la première force politique au Mali. Ils ont aujourd'hui, ils sont très bien représentés au Parlement, ils ont des élus municipaux, etc. Je pense que c'est sur la base de calculs comme ça qu'ils ont atteint les
703
millions de francs CFA. Mmh. Donc, je pense que c'est ça, mais malheureusement, il est aussi demandé aux partis de participer à la formation, à l'information et à l'éducation des populations. Malheureusement, beaucoup de partis ne le font pas.
Les objectifs donc, ne sont pas toujours atteints. Alors, nous allons parler d'enrichissement illicite. Monsieur David Dembélé, vous êtes un des auteurs de l'article qui parle de l'Église du Mali, le premier cardinal du Mali qui est accusé de corruption. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Bon, je voudrais que vous voyez les termes. Il n'est pas accusé. L'article n'accuse pas. L'article expose des faits tirés de documents authentiques en provenance des SwissLeaks.
Vous dites que l'article n'accuse pas, mais les faits aussi n'accusent pas?
Mais les faits sont très clairs. Les faits n'accusent pas. L'article expose des faits. Et quand vous parlez d'accusation, ça va loin. L'article expose des faits qui sont tirés des SwissLeaks. Et ce qui est très important, c'est que les intéressés étaient attendus sur pas mal de points que l'article a décrit pour qu'ils puissent donner des explications à hauteur de souhait, ce qui n'a pas, à mon sens, été le cas malgré les communiqués diffusés il y a deux jours par la conférence épiscopale.
Okay. Alors, donc je vais un peu lire les documents de SwissLeaks qui avaient permis de révéler une vaste opération internationale d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent qui font état de 7 comptes bancaires de la conférence épiscopale du Mali dans une banque dénommée HSBC à Genève. Monsieur Hakim Maïga, quand Monsieur Dembélé dit que les faits n'accusent pas, est-ce que vous pensez que les faits accusent vous dans cet article?
Bon, tu sais, dans notre profession, on nous dit toujours de s'en tenir aux faits. Donc, au fait, l'objectif recherché par un journaliste, c'est d'étaler les faits et à chacun de juger. Donc, par rapport à ce sujet, bon, c'est vrai que moi, ce qui me tique là-dedans, c'est que pour des faits, parce que SwissLeaks, c'est des révélations qui ont été faites depuis, qui ont commencé à partir de février 2015, et pour dénoncer des blanchiments d'argent et de fraude fiscale provoquées par une banque britannique, comme vous le dites, HSBC, à partir de la Suisse. Donc je ne sais pas pourquoi on attend que le monsieur soit promu
cardinal.
Pour révéler tout ça. Ah. Bon, c'est ça qui me tique, quoi.
Il y a quand même les responsables de l'Église qui ont démenti, et également le ministre des Affaires religieuses et du culte qui dit que cette calomnie ne vise qu'à salir l'image du premier cardinal du Mali. Qu'en pensez-vous de cette déclaration du ministre?
Je pense, de mon point de vue, le ministre a quelques pareilles raisons. Parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que luxe a dit qu'il y a 7 comptes, etc., etc., qu'on doit immédiatement accuser Monseigneur Zanzerou. C'est quelqu'un quand même qui est très clair, qui est toujours au-dessus de la mêlée. Et c'est quelqu'un qui vraiment est au-dessus de tout soupçon. C'est de mon point de vue. Je pense que c'est le lieu de dire aux uns aux autres vraiment de faire preuve de maîtrise de soi. Donc accuser une autre personnalité de l'Église de la sorte, je pense que c'est méchant, c'est arrogant. Ça ne se doit pas. De mon point de vue, il n'a aucun compte. C'est un commentaire. Si vous me permettez, dans ce pays-là, il y a un problème. Il faut que je le souligne. Chaque fois, on s'en prend à de hautes personnalités. Souvent, c'est notre faute à nous-mêmes. C'est notre faute à nous-mêmes. Quand nous allons jusqu'à comparer notre président de la République à un âne, vous voyez à quel point c'est grave. Quand on s'en prend à des dignités religieuses, c'est nous-mêmes qui livrons nos dirigeants, nos religieux à la vindicte populaire. C'est extrêmement grave. C'est pas bon.
Seconde
il faut
course.
Qu'on arrête avec ça.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors nous allons poursuivre avec l'enrichissement illicite. Le Mali, un pays où la corruption est beaucoup dénoncée. Nous venons d'avoir l'office de lutte contre l'enrichissement illicite. Monsieur Maïga, cet office, est-ce que ce sera une structure de plus pour la lutte contre la corruption?
Je ne souhaite pas que ce soit une structure de plus. Je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Chaque fois qu'il y a un mécanisme pour lutter contre l'enrichissement illicite, il faut tenter. Ça n'enlève rien au fait que les autres structures aussi fassent leur travail.
Monsieur David Dembélé, est-ce que vous pensez que l'Office pourra changer quelque chose dans la situation concernant la corruption au Mali?
J'anticipe en disant que c'est une structure qui va fonctionner, je ne suis pas divin, mais à la lumière des expériences que nous avons vues. Et je présume que cette structure ne va pas faire de miracle, tout simplement. On a vu comment les autres ont été lancés en grande pompe et des structures dont on ne parle plus désormais, bon, entre guillemets, qui ont affiché toutes leurs limites. Et du coup, je me dis que cette structure-là va couler dans le même caniveau, quoi.
Alors, Monsieur Badou Escoba, il y a certains responsables de la société civile, notamment le président de Diogoni Maya, le professeur Abdoulaye Niang, qui pense que cette structure, la lutte contre la corruption, était une des promesses du président Ibrahim Boubacar Keïta, et que le fait de créer cet office-là, juste à quelques mois des présidentielles, c'est une forme de campagne.
Moi, je ne suis pas un homme politique, je ne veux pas verser dans le débat politique. Ce qui est sûr, c'est avant cette structure, il y a eu la CASCA, il y a eu le vérificateur général. Donc, deux structures qui étaient là, qui luttaient déjà contre la corruption. Il faut cependant reconnaître que réellement, la corruption, c'est un phénomène qui existe, c'est pas au Mali seulement. C'est une gangrène qui est en train de se propager dans le corps physique de nos États, il faut le reconnaître. Bon, créer une autre structure pour dire que nous allons et encore lutter contre la corruption, est-ce que c'est pas augmenter la charge du bûcheron? Parce que quand le bûcheron porte le fagot, si vous augmentez sur le fagot...
Mais quand vous parlez du vérificateur général, je me rappelle, une de ses demandes, c'était que le rapport ne soit pas rangé dans les tiroirs. Mais est-ce que dans les faits, on a vu quelque chose de concret par rapport
On a vu quelque chose de concret. C'est que le vérificateur général a fait son travail. Il a déposé le rapport chez le président de la République, je pense.
Et la suite,
je crois que les rapports ont été déposés au niveau de la justice. Bon, après, on n'a pas eu de suite. Mais ce qui est probablement, peut-être, il y a eu quelques arrestations, quelques interpellations, on n'en sait pas trop.
Est-ce que, espérons, comme M. Maïga l'a dit tout de suite, que l'Office également ne fera pas des rapports qui seront rangés. Alors, nous allons parler maintenant d'environnement. Donald Trump, le président américain, a annoncé ce jeudi la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, semant la consternation parmi les 194 autres pays signataires. Nous avons vu qu'il y a Emmanuel Macron qui a dénoncé ça, et il y a également Poutine, qui est le président de la Russie, qui a demandé à ce qu'on négocie avec Donald Trump, que c'est seulement ça qui pourrait régler cette situation. Que pensez-vous de cette situation?
Vraiment, comme vous le dites, ça a causé vraiment la consternation à travers le monde entier, surtout les défenseurs de l'environnement n'ont rien compris, parce que les États-Unis, c'est quand même une promesse de 3 milliards de dollars pour le fonds vert, et Obama était là, il a pu verser 1 milliard, on attendait les 2 autres milliards qui, avec cette décision, c'est de ne plus venir, alors que ce fonds vert est surtout mis en place pour des pays vulnérables comme l'Afrique, pour permettre de faire des projets pour lutter contre les effets des changements climatiques. Donc imaginez déjà ces conséquences immédiates et auxquels il faut pallier. Est-ce qu'il faut négocier ou pas? Je pense que vous savez, Donald Trump, c'est quelqu'un comme on était dans les promesses électoralistes, donc c'est des promesses qu'il a faites pendant sa campagne, donc il fallait les respecter, même si dans l'argumentaire ça ne tenait pas du tout, mais il fallait les faire, donc c'est ça. Donc moi je pense que il faut négocier avec lui. Comme c'est une promesse, il fallait qu'il fasse ça, mais il faut l'amener, au moins à prendre
une autre décision.
On n'est pas quitté complètement.
Nous allons justement écouter Ahmed Sekou Diallo, membre du réseau climat de la société civile, qui va nous dire ce qu'il pense de cette décision de Donald Trump, le président américain. Alors, juste avant d'avoir là, cette réaction de Donald Trump, M. Badou Escoba, est-ce que vous pensez, comme Amadou, M. Maïga, que Donald Trump, en négociant avec lui, il reviendra sur sa décision?
Donald Trump, c'est quelqu'un qui est imprévisible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très impulsif. Et il clignote à gauche, il va à droite. Donc, pendant la campagne, effectivement, il a dit qu'une fois venu au pouvoir, il va retirer les États-Unis de la COP21. Je pense que c'est une très mauvaise chose parce que les États-Unis et la Chine sont les plus grands pays pollueurs au monde. Et le contexte environnemental mondial est tel qu'il faut qu'il revienne sur sa décision. Et je pense que l'opinion publique américaine va le contraindre à revenir sur sa décision. Parce que quand vous voyez les effets du changement climatique, les gaz à effet de serre, c'est extrêmement grave. Donc le contexte,
notamment pour l'Afrique qui compte des pays en développement.
L'Afrique compte les pays en développement. L'Afrique est victime des effets du changement climatique. Oui. Parce que l'Afrique n'est pas un continent pollueur. Mais l'Afrique est plutôt une victime. Voilà.
Écoutons Ahmed Sekou Diallo.
L'impact de la décision de Trump, président des États-Unis, peut être très négatif par rapport à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Ça peut amener d'autres États à dire qu'eux aussi, ils sortent de l'accord et qu'ils vont privilégier le développement de leur industrie en oubliant les aspects climat qui menacent le monde entier. C'est aux juristes d'apprécier parce que dans l'accord, il y a un article qui dit carrément que c'est quelque chose de contraignant pour tous les pays. Et dès que tu signes, tu es obligé de mettre en œuvre tes engagements. Les conséquences sur le Mali, c'est lié peut-être au financement. Parce que les États se sont engagés à mettre un fonds de 100 milliards de dollars au profit des pays en développement pour leur permettre d'assurer la lutte contre le changement climatique. Cela veut dire que les fonds ne seront pas mobilisés. C'est à nous de nous organiser, de compter avec nos moyens de bord.
Monsieur David Dembélé, peut-on craindre ce que vient de dire M. Diallo par rapport à la décision d'autres pays de se retirer?
Oui, c'est à craindre, absolument. Mais moi, je pense que plus on a parlé, on a beaucoup parlé de ces accords de Paris. Est-ce que les accords de Paris, ce que je continue de m'interroger sur. Cet accord-là, est-ce qu'il a interrogé un peu sur l'impact des financements alloués aux pays en voie de développement, par exemple, en termes d'impact de ces projets financés sur le terrain? L'impact, moi je pense que c'est beaucoup plus important pour nous que cette décision des États-Unis de se retirer de cet accord-là. Et peut-être que c'est une décision qui pourrait aussi amener les pays africains à allouer une ligne budgétaire conséquente à l'environnement. Vous voyez que le département de l'environnement est pratiquement le parent pauvre sur le plan du budget. Et je pense que la priorité, en tout cas, c'est d'évaluer déjà l'impact de ces structures qui travaillent sur le terrain dans le cadre de l'environnement. Et moi, je me dis que le bilan est vraiment mitigé. Il y a de quoi travailler.
Alors, Monsieur Dembélé a profité pour faire le bilan de cet accord. Monsieur Maïga, est-ce que, comme l'a dit tout de suite Monsieur Diallo, désormais, ça doit être chacun pour soi. L'Afrique doit apprendre à se prendre en charge et non compter sur le financement des pays qui sont les pollueurs, même si on est les victimes.
Oui, c'est pas écarté, mais je pense que faut ramener Trump à la raison. Pour l'amener à la raison, mais je pense que cette décision va amener les autres pays à s'unir, à se donner les mains et aller ensemble pour aboutir aux objectifs assignés.
Okay. Monsieur Koba, est-ce que vous pensez que l'Afrique a les moyens de se prendre en charge, de prendre des mesures d'adaptation face à cette situation?
Mais c'est une question de volonté politique. Il ne faut pas que les Africains mettent chaque fois en tête et qu'il faut que l'autre côté vienne. Les Africains doivent se mobiliser. Je crois qu'en 2012, ils avaient lancé un projet de ceinture verte qui devait que concernait pratiquement toute la bande sahélo-sahélienne, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si on a arrêté avec le projet à cause de la crise dans le Sahel. Mais ce qui est sûr, c'est un exemple qui est là déjà, même si le financement doit être un financement extérieur. Donc les Africains, c'est à eux de se mobiliser, de mettre la main à la poche, de pouvoir se prendre en charge et lutter efficacement contre le climat.
Merci Badou Escoba, et c'est ce qui met fin à ce forum de la presse. Le temps toujours. Comme invité, nous avons Badou Escoba du Carrefour, Hakim Maïga de la Nouvelle République et David Dambélé des Dépêches du Mali au téléphone. Le débat a été présenté par Mohamedou Touré, à la mise en onde Gagné Kanté, la réalisation Ibrahima Haran Diallo et à la régie vidéo Monsieur Mamadou Ouattara. Merci.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Halo Dumandi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.